C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de « Ça tient la route » Alain Mekena.
Bonjour.
Monsieur Charrette, bonjour.
Alors, cette semaine, tiens, écoute, le prix de l'essence a tenu les manchettes d'à peu près tout le monde depuis plusieurs semaines. Là, ça qui est un peu stabilisé, le prix du baril tombe en bas de 100 piastres, ça se promène. Mais ouais. CA Québec, nos bons amis du CA Québec ont donné plusieurs entrevues parce que les gens se demandent toujours, difficile de changer d'auto, des petits trucs pour économiser du carburant. On va en parler avec Jesse Caron, ça va être notre invité cette semaine.
Il y a
quelques trucs. On en a glissé un mot à l'émission il y a quelques semaines, mais on va revenir avec Jesse puis voir ce que le CA nous recommande de ce côté-là. Serroutier, tu nous présentes quoi, toi, cette semaine?
Écoute, je reviens pour une dernière fois parce que j'ai fait un essai à long terme et je fais pas ça souvent, mais ça valait la peine cet hiver de tester le Mazda MX-30, qui est le petit véhicule tout électrique.
On en
de
a
Mazda.
Parlé au début de ton essai, je m'en rappelle.
Qui a donc bien des défauts, mais qui a quand même quelques traits particuliers. Et là, j'ai soulevé trois éléments de ce véhicule-là qui sont aussi à considérer sur d'autres véhicules si vous magasinez une voiture électrique en ce moment.
D'accord. Et je souligne qu'on est en vidéo.
Tu mets de la pression, il va falloir que je livre, mais effectivement, on filme en studio en ce moment. Vous viendrez voir ça sur annuelauto.ca. Je pense que ça va être le fun.
Absolument. On va tenter de commencer cette habitude-là de nous présenter directement dans nos studios du 98.5 à Montréal. Vous voyez que...
Gros et somptueux studio.
Des studios.
Ouais, écoute, déjà...
Ça fait le travail.
T'as raison.
C'est ça le principal. MX-30, moi, je vais vous parler d'un modèle hybride, le Accord. Honda Accord hybride. Qui est un monument de sobriété, voiture qui est très grande aussi, puis qu'on oublie souvent. Les gens vont magasiner toutes sortes d'affaires, cherchent souvent des VUS, puis tout ça. Écoutez, si vous avez rien de lourd à traîner, puis que vous avez besoin d'espace, c'est surprenant. Et c'est une voiture. Moi, je...
L'Accord a toujours été une berline tout à fait.
Exactement. Alors, on va en parler un peu plus en longueur dans notre troisième segment, mais pour commencer. Manchette, parle-nous de ça.
Écoute, j'ai une, dépendamment où vous vous situez là-dessus, j'ai une bonne nouvelle. La Polestar 2 à autonomie prolongée débarque enfin au Canada.
Oui, parce qu'elle était ailleurs et on se demandait bien si elle allait venir chez nous.
Écoute, puis ça fait honnêtement au moins 2 ans qu'on en parle.
Exact.
Mais là, finalement, cette fois, pour vrai, c'est la bonne. Puis il faut comme vraiment répéter plusieurs fois les adverbes parce que c'est vrai, là. La Polestar 2 a... Bon, à un seul moteur et autonomie prolongée est enfin arrivé au pays. C'est le modèle de base là, de cette voiture-là, de la filiale canadienne de la société suédoise SME du groupe suédo-chinois, ou devrait-on plutôt dire sino-suédois?
Comme tu veux.
Et là, je reste jouer avec les mots, mais c'est le groupe Geely Volvo donc qui a annoncé à la mi-mars là, que les premiers exemplaires de sa berline tout électrique de format intermédiaire avaient officiellement été livrés aux premiers acheteurs canadiens. Ça, c'est la semaine passée. C'est quand même assez important. Pour Polestar, évidemment, étant donné que cette nouvelle version de la Polestar 2 est celle qui permet à toutes les versions de ce modèle de se qualifier pour l'aide à l'achat gouvernementale qui, je le rappelle, atteint, pour nous au Québec, 11 300 $ avant taxe, donc à peu près 13 000 $, ben en fait, 13 000 $ pile poil après taxe. C'est pas négligeable, étant donné le prix plus élevé des versions plus attrayantes de la 2. Je pense à la version présentée justement l'an dernier, là, avec 2 moteurs et 4 roues motrices, qui est vraiment extrêmement séduisante. Bref, avec l'arrivée de ce modèle qu'on pourrait qualifier d'entrée de gamme, les automobilistes québécois intéressés peuvent donc acheter une Polestar 2 à un prix qui démarre à 41 900 $.
Ce qui inclut les rabais, disons-le. Là.
Oui, exactement, tout pris en compte, sauf les taxes. Là, je ne suis pas fiscaliste. Je vous dis ça en passant, d'ailleurs, c'est au Québec, partout au Canada, là, où on peut trouver... Non seulement la Polestar 2, mais les véhicules électriques qui coûtent le moins cher, parce que l'aide provinciale ici est plus élevée qu'ailleurs.
Exact.
Donc, c'est assez intéressant. Ben, pour différentes raisons. La plus importante étant évidemment le fait que, dans le cas de la Polestar 2, là, elle arrive au pays avec une autonomie de 435 km par charge. Et là, ce ne sont pas des kilomètres européens qui apparemment sont moins longs que les nôtres. mais effectivement, c'est pas mal proche de la cible si vous l'achetez. C'est ce que vous allez atteindre à peu près par charge, ce qui la classe parmi les meilleures berlines de ce format-là sur le marché chez nous. J'ajouterais à ça le fait que la Polestar 2 arrive avec une offre technologique assez intrigante, pour pas dire assez attrayante aussi. Son système multimédia repose sur le logiciel Android pour auto de Google, qui n'est pas la même chose qu'Android Auto tout court qui vient de ton téléphone.
Non, en fait, c'est comme un système intégré, je pense.
Exactement, c'est un système système embarqué, connecté, qui vient avec 4 ans de connexion cellulaire gratuite pour aller justement récupérer la musique sur Spotify, sur YouTube. Les excellentes balados du groupe C23, d'ailleurs, sont présentes.
Bien sûr.
Effectivement, ça tient la route. Et où ça comprend aussi, évidemment, l'accès à des données de navigation en temps réel là, du côté de Google Maps. Et il y a aussi la commande vocale de Google qui fait de l'excellent boulot, même dans une voiture qui peut devenir un peu bruyante, là, parce que, évidemment,
oui, en fait, on voit là que les nouvelles générations de reconnaissance vocale s'améliorent. C'est-à-dire qu'on réussit à comprendre le conducteur, parce qu'avant... Là,
ça fait au moins 15 ans que les commandes vocales dans les autos sont pas bonnes.
Il fallait pratiquement épeler chaque mot qu'on voulait dire pour qu'on réussisse à se faire comprendre.
Évidemment, tout ça ne garantit pas le succès commercial de la Polestar 2, qui est encore un peu en suspens, dans le fond. Mais au moins, on voit que le fabricant fait des efforts là pour ajuster son offre aux conditions du marché québécois. Ce qui est quand même déjà
absolument
une bonne affaire. Et en plus, le véhicule sur papier est assez intéressant. Je ne sais pas si tu l'as essayé.
Moi, j'ai essayé la Polestar 2.
Le modèle à
deux moteurs, quatre roues motrices. Le confort. Le confort, l'aérodynamique aussi est
très
intéressant.
Très Volvo-esque comme véhicule, évidemment.
Exact.
Donc, une proposition intéressante pour
les
gens.
C'est très épuré là, à la suédoise, exact. Là où il n'y a rien y a rien d'inutile. Chaque bouton a une fonction. Chaque fonction a un bouton. C'est pas compliqué.
très vrai.
Parce qu'il y a des...
c'est important.
Bon, la console flottante, il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais en général, c'est un véhicule extrêmement joli, d'une part, très confortable, bien conçu, confortable aussi.
Et là, il existe pour vrai en personne.
Oui, alors ça, c'est intéressant.
Voilà.
Ta deuxième nouvelle?
Écoute, j'ai sorti quelques suggestions pour aider Québec, donc le gouvernement provincial, à atteindre sa cible climatique de 2030. Et là, évidemment, on parle ici d'automobile d'habitude et il y a un lien directement à faire entre ça puis nous, en fait. Parce qu'on le sait, bon, Québec s'est fixé dans ce qu'ils appellent son plan vert 2030, l'objectif de réduire de 37,5% ses émissions de gaz à effet de serre, on parle de l'ensemble de la province, d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Pour le moment, on n'est vraiment pas en avance. Même au contraire, au rythme où ça va, on va vraiment rater de beaucoup notre cible.
On va le rater. D'abord, il y a un manque de disponibilité de modèles. On voudrait vendre plus d'électriques, on n'en a pas. Le problème, c'est qu'on reçoit les restants de l'Europe qui ont des normes beaucoup plus sévères que nous, donc qui en reçoivent beaucoup plus que nous. Et là, à cause de ça, on traîne de la patte.
Oui, puis je vais juste préciser ceci. Le secteur du transport est responsable au Québec de 43% de nos émissions totales de gaz à effet de serre. Et dans ce secteur-là, donc dans le 43%, les 4/5, donc à peu près 37%, là, en tout cas, c'est qu'elle fait le calcul, sont causés par les voitures, les VUS, pour particuliers. Donc, quand on dit c'est toujours la faute des camions, c'est toujours la faute des autres, veut pas, le transport automobile fait partie de l'équation, est quand même assez important. Et généralement, étant donné qu'on mise beaucoup sur la réduction des émissions du transport, si on rate cette cible-là, il faut imposer des cibles encore plus importantes aux industries lourdes, des choses comme ça. Donc, tu sais, il n'y a pas de solution simple. Là, ce qu'on prévoit au niveau du gouvernement, c'est qu'on va les émissions du transport vont reculer de 13% d'ici 2030. C'est trop peu. Et ce qu'on espère, c'est qu'en suivant un peu les exigences aux États-Unis, c'est qu'on va vendre en 2030 50% de véhicules qui seront électrifiés.
Ouais, là, on est à 12,5% en ce moment. Juste pour donner une précision, là, 2030, ça paraît pas, là, mais on est à 7 ans de là, grosso modo.
Ça s'en vient.
Va falloir accélérer le rythme, là.
Il y a encore de la place. Et justement, il y a des organismes, puis là, évidemment, Équiterre vient en tête parce qu'ils sont très pro-environnement, puis c'est tout à fait correct. Ils suggèrent qu'on devance, parce qu'on sait, en 2035, ça va être 100% des véhicules neufs qui vont être vendus au Québec devront être électriques. Et on suggère de devancer ça à 2030, justement, pour accélérer la cadence.
Ouais, mais je pense que dans les conditions actuelles, pour le moment, c'est impossible.
On en a parlé un petit peu la semaine dernière, et tu viens de le dire un peu par rapport à ce qui se passe en Europe. Tout est question de réglementation et de forcer l'industrie à respecter un seuil. Et ce qu'on comprend, c'est que quand on leur fixe pas de seuil, ils sont très paresseux, les fabricants.
En fait, les fabricants ont toujours fonctionné de la même manière. Ils font strictement le minimum qu'on leur demande, jamais plus.
Mais si on leur hausse le minimum, ils vont respecter le minimum.
Oui,
donc, effectivement,
exactement.
On peut leur en demander un petit peu plus.
C'est que notre minimum est trop bas. Il faudrait améliorer ça, puis on aurait plus de disponibilité, on vendrait plus de véhicules électriques, parce que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui achèterait de véhicules électriques s'il y en avait. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas.
Puis c'est une combinaison de prix d'achat et tout le kit aussi. Donc
et même si on était dans une situation normale où il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de problème de chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas de guerre en Ukraine, tout ça, on n'aurait quand même pas le quota qu'on devrait avoir parce que l'Europe mobilise à peu près tous les efforts des constructeurs en ce moment.
Exactement. Donc, un petit effort législatif serait bienvenu. Et ce qu'on voit, c'est quand on force les fabricants à amener des véhicules, ils amènent plus de véhicules et plus il y a de véhicules, plus les prix baissent.
Exact.
Il y a comme une espèce de petit cercle vertueux. Là, il faut juste donner un petit coup de coup de pied là, au cercle en question pour qu'ils se mettent en branle. Et ça, évidemment, c'est le rôle du gouvernement. Le rôle des consommateurs, évidemment. On ne peut qu'essayer de réduire nos propres émissions par nos propres moyens.
Il y a déjà beaucoup de gens qui sont prêts à suivre, sauf que ces gens-là n'ont pas accès aux produits pour lesquels ils voudraient bien payer. Alors ça reste un problème. Oui.
Voilà.
Tiens, Godzilla n'est plus.
Oh non.
Ah, Godzilla n'est plus. En fait, Godzilla n'est plus en Europe. Là, vous en dites, c'est qui ça, Godzilla?
Ben, non. Au Japon, Godzilla, de toute façon.
Ce n'est pas le monstre japonais que tout le monde connaît. Mais c'est japonais. C'est la Nissan GT-R, qu'on appelle aussi affectueusement Godzilla.
Ah, voilà.
Les réglementations au niveau de l'environnement en Europe, on vient d'en parler, sont de plus en plus sévères et font en sorte qu'à partir de l'an prochain, le moteur, qui est le 6-cylindres légendaire dans ce véhicule-là, ne sera plus capable de répondre aux normes environnementales de plusieurs pays. Les deux seuls pays, pour le moment, qui n'ont pas dit non, mais où on ne peut pas en commander, c'est l'Allemagne et la Belgique. L'Allemagne, à cause de l'autobahn, évidemment, on essaie de garder... voilà. Sauf que c'est une nouvelle qui vient des Pays-Bas, en fait, du site Autoblog dans les Pays-Bas, qui dit que le modèle est officiellement retiré du catalogue européen. Cela dit, il est encore trouvable chez nous, il est encore disponible. La question, c'est combien de temps on va encore voir ce modèle-là?
Ouais.
Ça, c'est loin d'être sûr. C'est un modèle qui va probablement passer dans le tordeur avant longtemps, ou si jamais on le remet en selle ou qu'on a une prochaine génération, parce qu'il faut bien dire que depuis 2007, ce modèle-là a évolué, mais on peut pas dire qu'il a changé tant que ça. Base pas mal. C'est la même base mécanique, c'est le même châssis, c'est la même plateforme, c'est le même modèle qui a évolué en puissance, qu'on a raffiné. Il y a un modèle Nismo, mais ça reste la même chose. Est-ce qu'on peut le faire évoluer avec un autre moteur qui va répondre aux normes environnementales et donner une aussi bonne puissance? Ça reste à voir.
Ce n'est pas incompatible avec un moteur électrique.
Ce n'est pas incompatible avec un moteur électrique. Il s'agira de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce véhicule-là. Et avant d'aller à la pause, tiens, une petite rapide. Ford a finalement décidé d'envoyer des véhicules incomplets chez ses concessionnaires.
Oh oui, ça, c'est intriguant, ça.
Ouais, bon, écoute, Alain, ça fait... Depuis le début de la pandémie, pratiquement, l'année passée. Là, c'est que les véhicules s'accumulent dans des stationnements qui sont adjacents aux usines de production de Ford.
Mm-hmm.
Et là, on se disait, bon, on envoie tout ça chez concessionnaire. On les garde-tu ici? On attend-tu les puces quand ça va être complet? Les envoyer complet?
Ouais.
Là, les cours sont vides. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de finalement les envoyer et les vendre tels qu'ils sont. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les modèles, mais il y a des modèles où la sécurité n'est pas remise en cause. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de siège chauffant à l'arrière. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de système de ventilateur et de chaufferette à l'arrière. Ça n'empêche pas le véhicule bien rouler, puis c'est pas un problème de sécurité.
Mm-hmm.
Fait qu'on a décidé chez Ford de dire, écoute, ça va faire, là. Et on perd des ventes et on sait plus quoi faire de ces véhicules-là. Les concessionnaires veulent des véhicules. Fait qu'on va les envoyer. Certains pourront être plus tard rééquipés des éléments qui manquent. Là, Ford nous dit que ça sera fait gratuitement. Mais là, les gens devront comprendre qu'ils vont acheter des véhicules qui ne sont pas tout à fait comme ils sont indiqués sur
le
carnet de commande.
Ouais.
Il va manquer certains éléments. Moi, je dis, informez-vous pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais cela dit, Ford nous assure qu'il manque pas, par exemple, un klaxon, qu'il manque pas des moteurs d'essuie-glace, qu'il manque pas des puces pour les phares à l'avant, là. Tu sais, des choses que tu dois avoir parce que la sécurité est impliquée. Ça va être des choses, tu sais, regarde, GM a vendu des pick-up avec des systèmes de désactivation de cylindres qu'on a enlevés parce qu'on n'avait pas les puces pour. Bon, ça n'empêche pas le camion de fonctionner. Vous allez avoir peut-être un 0.2, 0.3 litres au 100 de différence quand vous roulez. Bon, mais ça va être un peu ce genre d'item-là. Mais là, parce qu'on veut vider stationnement, là. Écoute.
Il faut écouler les stocks aussi.
J'ai vu des photos, entre autres. Je pense que c'est au Kansas. Il y a un circuit, il y a une piste de course à côté de l'usine. Je pense qu'il y a 4 km de piste. C'est à plein de chars.
C'est
à toutes des Ford qu'on a accumulées pendant l'hiver, sauf que lui, au printemps, la piste va ouvrir, là, puis il va avoir des courses. C'est pas des courses de slalom entre des pick-up qu'il veut, là, lui. Il va avoir des vraies courses, c'est ça. Alors là, on va vider à la place. Fait que ça, vous allez voir arriver ça, là, ça va arriver dans les prochaines semaines. C'est peut-être même commencé au moment où on se parle. Comme je vous dis, la seule chose, informez-vous avant pour savoir ce que vous achetez. Alors nous, on va une première pause et on va revenir après avec notre invité Jessica Ron du CA Québec.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Vous le savez, le prix de l'essence fait partie d'à peu près tous les débats de famille, toutes les discussions de repas, et depuis quelques semaines, on a vu le prix du baril passer sous la barre, c'est-à-dire au-dessus des 100 $, des 120, des 130. Là, ça s'est un peu stabilisé. Le problème, c'est que les gens qui aimeraient changer d'auto, c'est un problème, un réel problème en ce moment. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de voiture neuve, il n'y a pas plus de voitures d'occasion. Donc, on est souvent pris à tirer le meilleur parti de l'auto qu'on possède. Puis c'est un peu ça qui nous a amené à appeler notre ami Jesse Caron. Salut, Jesse!
Salut Benoît, salut Alain.
Alors Jesse Caron, on le sait, tu es au CAA Québec depuis maintenant plusieurs années et je suis prêt à parier que vous avez eu pas mal d'appels de gens qui sont concernés ou je dirais intrigués par ce qu'ils peuvent faire pour économiser un peu de carburant, pour ne juger bon d'en parler avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis aux gens là qui sont bons? Il y a des gens qui ont à se déplacer tous les jours, qui ont à aller au travail, qui doivent utiliser leur voiture. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petit truc là, pour tirer meilleure partie d'un plein d'essence là?
Mais en premier lieu là, c'est sûr que tu sais, il faut prendre un pas de recul. C'est peut-être difficile à faire parce que quand on voit les prix augmenter à ce point-là, on voudrait tout de suite une solution pour avoir un changement drastique. Mais il faut prendre un pas de recul. Donc, on sait, les véhicules sont rares sur le marché. Donc, on serait peut-être tenté de vouloir remplacer notre camionnette par un véhicule plus qui serait moins énergivore, voire un modèle électrique. Mais c'est très difficile de les obtenir. Donc, puis si on réussit à en avoir un exemplaire, ça va être long, puis il y aura pas de rabais. Donc, il faut...
Ah non, ça... négocier un prix sur une voiture neuve par les temps qui courent, c'est une mission impossible, ou à peu près, là.
Oui, à peu près, exactement. Donc, on conserve effectivement son véhicule s'il est bien entretenu. Ça, c'est la première chose à faire, là. Et il y a des moyens d'économiser, effectivement, du carburant. En adoptant une conduite qui est peut-être un peu, qui va nous sortir de nos habitudes, mais qui va faire une différence. La première chose à laquelle je pense, c'est quand on roule sur l'autoroute, on est plusieurs à avoir le réflexe de rouler 115, 118, on sait que c'est toléré.
Il y en a qui ont plus que ça aussi.
C'est plus. Ben oui, c'est ça. Donc, ça dépend de notre tolérance au risque, mais on sait qu'en bas de 120, ça devrait bien aller. Mais quand on roule à 115, 118 km/h, ben c'est pas compliqué. On consomme 15 à 18% plus de carburant. Donc, que si on roulait à 100 km/h. C'est facile, c'est une règle de 3 là, dans ce cas-là.
Oui, je pense que c'est le meilleur truc et en même temps le plus difficile quand on n'est pas habitué. Je l'ai fait ironiquement parce que je suis allé dans les Laurentides il y a 2 semaines puis j'ai dit, tiens, j'ai fait l'effort parce qu'honnêtement, je fais partie de ceux qui roulent 115-120 à peu près tout le temps. T'as l'impression que tu vas pas vite. Mais écoute, c'est un véhicule, c'était mon véhicule là, donc je connaissais sa consommation. Et sur l'autoroute habituellement, à peu près à 100, entre 115 et 118, je fais du 8.3-8.4. Puis là, j'ai fait du 6.6 à 100 km/h. On parle presque de 2 litres au 100, c'est pas rien là, c'est une vraie économie là.
Ah, c'est tout à fait, oui, ça se remarque, puis oui, bon, c'est pour ça que je disais que c'est un changement d'habitude peut-être un peu difficile à faire, mais ça, c'est la première chose qui va paraître, parce que les autres trucs, là, en ville, bon, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir une conduite plus coulée, d'avoir des accélérations plus douces, d'anticiper les feux rouges, relâcher l'accélérateur pour essayer de freiner, parce que quand on freine brusquement ou de façon plus intempestive, ben il faut réaccélérer pour se redonner, se réinsérer dans le trafic. Ouais. Donc si on est capable d'avoir quelque chose de plus coulé, c'est sûr qu'on va être, on devrait aussi réussir à économiser un peu là, mais ça aussi c'est un changement d'habitude. La vitesse constante, c'est la meilleure chose possible. Puis on essaie aussi de garder une distance aussi avec le véhicule qui nous précède pour justement éviter d'avoir à freiner brusquement, réaccélérer pour rejoindre le trafic. Donc ça, c'est une chose. On entend souvent dire aussi, arrêtez d'utiliser l'air climatisé parce que ça consomme beaucoup de carburant, c'est très énergivore.
C'est vrai, ça?
Ça peut être vrai en ville. Parce qu'en ville, on n'a pas le pouvoir de ventilation, si on veut, qu'on a quand on roule à bonne vitesse, parce qu'à ce moment-là, l'air ambiant puis tout ça fait que le compresseur du climatiseur a moins besoin de s'activer. En ville, c'est sûr que quand il fait chaud, le compresseur va entrer en action, puis ça va consommer davantage. Mais quand on roule sur l'autoroute, c'est le contraire. Ouvrir les fenêtres, c'est ça qui va faire consommer plus, parce que les véhicules, l'aérodynamique des véhicules étudié aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Quand on ouvre les fenêtres, on crée une déportation d'air et ça va être plus énergivore que d'utiliser le climatiseur. Parce que le climatiseur, je le répète, quand on roule à bonne vitesse, son compresseur va entrer en action seulement de façon sporadique là,
pour
une petite fraîche de temps en temps. Le véhicule va être capable de maintenir la fraîcheur. Donc, on n'a pas besoin de s'en priver puis de se faire bourdonner dans les oreilles là, pour essayer d'économiser du carburant, même qu'on va en consommer plus si on fait ça.
OK. Moi, je parlais à des gens, puis tu vas me dire, ça n'a pas rapport à l'auto, mais le covoiturage, parce que moi, mon père l'a pratiqué longtemps, je le disais à l'émission il y a quelques semaines ici. Si on n'utilise carrément pas sa voiture pour une semaine sur deux ou une semaine sur trois, dépendamment combien on a de personnes qui vont faire du covoiturage avec nous, ça peut être une solution intéressante, ça.
C'est une solution à envisager, oui. Donc, nous autres, on a appelé ça réfléchir à son cocktail de mobilité.
Excusez, j'ai pas d'équipe de recherche, moi, pour trouver des beaux mots comme ça, mais c'est bien. Je risque de te l'emprunter, Jesse.
Ah, ça va nous faire plaisir. Tu peux la reprendre.
D'accord.
En fait, c'est ça. Tu t'as parlé du covoiturage. C'est une bonne option. Le véhicule, c'est sûr qu'on le paye quand même, là, mais au moins, on paye pas son utilisation, donc pendant ce temps-là, on économise. On peut couper la poire en deux si on est deux dans le véhicule. On peut la couper en trois. Ça dépend à combien de personnes on peut amener dans son groupe, si on veut. On peut essayer de marcher un peu, de faire du vélo une fois de temps en temps. L'hiver, le vélo, c'est pas l'idéal. Il y en a qui le font, mais c'est pas pour tout le monde. La marche, ça peut être une solution.
L'hiver,
le télétravail... Pardon?
L'hiver achève.
L'hiver achève, là, on annonce des plus belles journées. En parlant de covoiturage, moi, j'ai un couple d'amis, ce qu'ils avaient fait, c'est que la conjointe voyageait pour le travail. Et pendant ce temps-là, le conjoint, lui, utilisait l'auto la semaine parce qu'elle n'était pas utilisée. Et la semaine que c'est la conjointe qui amenait les autres au travail, le conjoint prenait l'autobus, il était dans une situation où il pouvait le faire. Puis, conclusion, il avait vendu une des deux voitures et pouvait s'organiser avec une seule voiture. Donc là, l'économie devient réelle parce que tu sauves un auto.
Ouais. Là, je vais rajouter parce que les activités parascolaires recommencent en grand, là, les activités des enfants après l'école vont. Attendre son enfant après une activité parascolaire dans sa voiture avec le moteur qui tourne, on peut couper le moteur. Surtout là, il fait moins froid.
De grâce, couper le moteur,
puis,
oui.
C'est un truc peu connu parce que la police l'applique pas, mais il y a une loi qui dit que tu devrais pas laisser ton moteur tourner au ralenti plus que 3 minutes.
En fait, il y a certaines municipalités qui appliquent ça, mais c'est vrai que c'est une façon de faire. Je sais, Jesse, que du côté du CA Québec, vous prônez beaucoup l'entretien des véhicules. Est-ce que l'entretien devient un facteur d'économie de carburant?
Mais j'allais justement arriver avec ce facteur-là, tout à fait, là, parce que quand on voit le fameux check engine, là, le petit moteur jaune allumé dans notre tableau de bord, puis qu'on s'en occupe pas parce qu'on sent pas que le moteur est moins performant, puis tout va comme d'habitude, en réalité, il consomme peut-être pas mal plus qu'on pense, parce qu'il y a une fuite quelque part dans le circuit là, d'évaporation d'essence, ça. Ça paraîtra pas, mais ça va faire consommer. On parle là de jusqu'à 25% dans certains cas, plus d'essence.
Un peu. 25, c'est beaucoup. Puis on le sait, Jesse, l'électronique dans les véhicules modernes compense les problèmes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que l'auto va continuer de fonctionner, probablement que le conducteur ne s'en rendra pas vraiment compte, mais pendant ce temps-là, le moteur ne fonctionne pas
de façon optimale
mm-hmm. comme il pourrait le faire. Et on suggère ça quoi, l'entretien? Une fois, deux fois par année, lorsqu'on va faire ces changements de pneus, c'est quoi les conseils généraux qu'on peut donner là-dessus?
Ben, le plus simple, c'est de suivre le calendrier d'entretien du véhicule, donc surtout s'il est encore garanti.
Ouais.
Après, ben, c'est sûr qu'on peut peut-être espacer un peu selon le kilométrage qu'on fait. On peut en parler à son mécanicien de confiance. Là, lui, il va être en mesure de nous dire, bon, ben, regarde, tu peux peut-être étirer un petit peu au lieu de venir aux 6 mois, viens aux 9 mois ou tout ça. Puis, effectivement, tu sais, lui, le mécanicien ou la personne va être en mesure de faire les tests aussi. Puis, parfois, peut-être qu'il va déterminer que ben le problème qui fait allumer le fameux check engine, le témoin d'anomalie moteur, aura pas d'incidence sur la consommation, mais s'il y en a une, il va être rapidement en mesure de le cerner avec le bon équipement diagnostique. Donc, à ce moment-là, on peut au moins agir en toute connaissance de cause. Et c'est important aussi de suivre ce calendrier d'entretien là, ouais. Pour avoir les meilleures performances possibles, puis garder son véhicule le plus longtemps possible, parce que là aussi on va économiser plutôt que d'être obligé de le remplacer, parce qu'à un moment donné, on a trop laissé aller les choses.
Tu sais, moi souvent je dis ça très souvent aux gens, le meilleur véhicule d'occasion, c'est celui que vous avez en vos mains. Parce que vous le connaissez, vous l'avez entretenu, puis s'il est encore en bon état. Surtout par les temps qui courent, où les véhicules neufs et d'occasion sont rares, sont très chers. Si on peut garder le sien, peut-être un an ou deux de plus, c'est peut-être une bonne chose par les temps qui courent.
Jesse, j'aurais une question pour toi là-dessus. Oui. Là, l'automne, je me suis trompé de saison. Le printemps s'en vient, il y a les changements pneus qui s'en viennent sur les véhicules. Évidemment, on retire les pneus d'hiver. Il doit y avoir possibilité pour les gens qui se magasinent des pneus neufs de trouver des pneus qui sont moins résistants, qui ont moins de friction puis qui donc aident à réduire la consommation du véhicule?
Absolument. Il y a des pneus à faible résistance au roulement dans les gammes de tous les grands fabricants. Évidemment, dans le domaine des pneus, on en a pour son argent. Donc, si on veut des pneus qui offrent quand même une bonne tenue de route, un bon niveau de silence et qu'on veut jumeler ça avec une faible résistance au roulement, ça se peut qu'on doive peut-être payer un petit peu plus cher. Et pour qu'il y ait des pneus performance pour les véhicules peut-être un peu plus prestigieux, puis beaucoup de VUS aussi qui ont des pneus assez agressifs, merci.
Ouais.
Ça va être peut-être un peu plus difficile d'aller vers la faible résistance au roulement, mais c'est les constructeurs investissent beaucoup là-dedans, puis essaient d'intégrer ça dans la majorité de leurs pneus tourisme, là, si on veut. Donc, c'est moins une rareté que ça a déjà été, puis c'est pas cantonné non plus aux véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. On peut en mettre sur notre véhicule, mais attention, si vous privilégiez la tenue de route, que vous avez un véhicule moindrement un peu plus sportif, y compris certains VUS, ben là, vous allez peut-être trouver que ça va faire une différence là, dans le rendement.
Vous allez trouver que votre tenue de route a changé un peu.
Ça fait beaucoup de véhicules, c'est sûr.
Ben, écoute, merci beaucoup, Jesse, pour ton temps. Je pense qu'on a plein de bons trucs pour les gens, là, au moins pour tirer le meilleur parti du véhicule qu'ils ont entre les mains. Alors, merci encore. C'était Jesse Caron du CA Québec qui est aux relations publiques, qui nous parlait des économies à faire en termes d'essence. Salut bien, Jesse. Bye-bye.
Bientôt.
Alors, nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers et la chronique écolo-auto. Tu vas voir, le sujet va te plaire.
Oh, d'accord.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
C'est le moment de nos essais routiers, mais un petit peu avant, on a notre chronique écolo-auto.
Oui.
Et même avant ça, on vous dit comment nous écouter, évidemment. La chronique, pas la chronique, mais le balado.
Oui.
Ça tient la route sur vos plateformes préférées, Apple, Google, Spotify, réseau C23, le réseau de Cogeco. On est à peu près dans toutes les stations. Vous allez, par exemple, à Montréal, 98.5 FM.ca, dans la section balado. Vous avez la poche bleue, la tasse de tech.
Merci.
Hein, avec notre ami Alain. Ça tient la route, est là. Et sur annuelauto.ca, on est là aussi chaque semaine. On fait une mise à jour de toutes les balados. Abonnez-vous. C'est la façon la plus intelligente. Vous avez, vous avez une petite alerte quand l'émission est prête et boum, vous écoutez ça n'importe où. J'ai un cousin qui le fait avec son jogging chaque semaine.
Ah oui?
Absolument.
Alors, c'est quoi son nom à ton cousin?
Éric Biette. On salue Éric.
Vas-y Éric, cours vite, cours plus vite. Allez.
Donc, cette semaine, tiens, chronique écolo-auto, de quoi tu parlais, toi, juste avant la pause?
Écoute, on parlait d'un pneu écolo.
Voilà, et c'est exactement le sujet de la semaine sur écolo-auto.com. En fait, les meilleurs pneus d'été pour améliorer la consommation d'essence, parce que des pneus à faible résistance, c'est pas nouveau, ça existe depuis des années. On a à peu près une dizaine de pneus d'été à considérer, là, selon le genre de véhicule que vous avez, que ce soit un VUS, une berline. Bon, les voitures sport, il y en a pas vraiment, parce que c'est incompatible avec des voitures sport. Si vous avez une Corvette, vous avez pas des pneus écolo, parce que ça tient pas en route. Alors, on peut pas mettre performance et longévité dans la même phrase. Des pneus qui vont être les voitures, bon, tiens, ma Honda Accord hybride que j'ai, là, voilà un bel exemple pour mettre des pneus qui vont être économiques. Parmi ceux qui sont les plus connus, et encore, je pense, parmi les meilleurs, c'est le Michelin Energy Saver, qui est là depuis longtemps, qui permet de réduire, et ça, c'est Michelin, faudrait c'est vérifier, là, j'ai jamais fait de test spécifique, mais on parle 8% de consommation de carburant. Ce que je trouve très bon.
Déjà gonfler ses pneus, c'est un plus aussi.
Bon, mais bien gonfler ses pneus, c'est un truc qu'on n'a pas donné, là, mais une fois par mois, c'est pas dur. Dans la portière de toutes les portes, de portière de toutes les voitures, il y a la pression recommandée, pneus avant-arrière. Tenez-vous-en à ça. Il y a aussi Goodyear qui fait le Fuel Saver, le Bridgestone Ecopia.
Voilà, Ecopia, je connais bien.
Le Continental Pro Contact. Il y a aussi des Michelin Primacy, des Pirelli Centurato, les P7, qui sont des pneus à faible résistance. En fait, sont conçus pour plusieurs sortes de véhicules et ils vont justement aider à réduire l'empreinte sur la route. Donc, vous allez faire en sorte que vous avez une plus faible résistance, donc une meilleure économie de carburant. Ce sont pas des pneus en général. Bon, oui, ce sont des grandes marques. On paye les prix de pneus de grandes marques. Mais il est pas plus cher qu'un pneu comparable de la même grande marque. Donc, sauf que c'est dans la construction, dans la fabrication qu'on est un peu différent. Et pour voir la chronique au complet, ben vous allez sur ecoloauto.com. Je vais de toute façon le publier sur ma page Facebook quand la mission va arriver pour les gens qui veulent y référer.
Voilà.
Alors Alain, cette semaine, dernière partie de ton essai du Mazda MX-30, le premier véhicule électrique de la marque.
Ouais, je pense qu'on peut même utiliser le mot saga dans ce cas-ci parce que ça a été quand même une aventure assez, en tout cas plus compliquée que je l'estimais. Et là, enfin, dirais-je que l'hiver tire à sa fin. Et ça m'a permis de conclure l'essai.
L'hiver n'est pas une saison facile pour ce véhicule-là. Hein?
Ben non, puis c'était un peu le défi, d'une certaine façon, d'utiliser ce véhicule comme... Parce que c'est évidemment, du point de vue technique, un des véhicules les plus limités sur le marché. De voir
sinon,
si on
le plus limité, il y a peut-être la Mini SE là, qui est à peu près dans le même camp. Là.
Et honnêtement, si vous voulez en savoir plus spécifiquement sur le MX-30, allez voir nos épisodes précédents là, de la balado, parce qu'on en parle en long et en large, je ne vais pas me répéter, mais quand même, au cours des 2 mois et demi passés là, au volant du MX-30, j'ai relevé quelques détails qui valent pour tous les autres véhicules électriques et qui valent la peine aussi d'être soulignés. Je vous en donne 3. Le premier concerne le chargeur de ces véhicules-là, plus exactement la forme que prend l'espèce de petite baie de recharge, le fameux clapet ou la trappe, où on a toute notre petite expression, là, mais là où on branche le câble sur le véhicule. C'est un détail qui a l'air banal, mais la plupart des véhicules électriques cachent évidemment leur chargeur derrière une petite porte, de la même façon qu'on le fait avec le réservoir d'essence.
Exactement.
Et c'est tout à fait logique. C'est même, l'inverse aurait été étonnant. Sauf que faire le plein d'essence, ça prend juste quelques minutes, et quand on le fait à la station service, on est protégé généralement par un toit, tu sais, il y a tout le kit. Quand on fait une recharge électrique, on le fait souvent à l'extérieur, et ça prend évidemment quelques heures. Et quand ça arrive en même temps qu'une condition, appelons ça un cocktail météo, pour reprendre l'expression de Jessica Honte.
Oui, puis Dieu sait qu'on a eu des cocktails cet hiver.
Exactement.
Là, on en a eu de toutes les sortes.
Tout ce qui tombe directement dans l'espace où se trouve le chargeur. Et généralement, et particulièrement dans le cas du MX-30, ça s'accumule aussi derrière le petit mécanisme de la porte, de la petite trappe, ce qui fait qu'il est impossible de la refermer entièrement sans forcer un peu ou aller gratter. Et là, on peut briser le mécanisme. C'est un peu niaiseux, mais c'est plate. une voiture qui a une trappe à essence ou une trappe de recharge brisée. Et si on veut essayer, ensuite aller déloger la glace, évidemment, on en a pour quelques minutes parce qu'il faut aller gratter puis c'est difficile d'accès. Alors, si vous pensez charger votre auto à l'extérieur durant une nuit où il neige, l'idéal serait de trouver un moyen de protéger le chargeur en le recouvrant d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a des compagnies qui font des chargeurs qui incluent une espèce de petit sachet ou je sais pas quoi qui cache, qui masque la
baie. C'est des espèces de petits. Ça s'achète dans l'après-marché, ça coûte pas très cher.
Exactement, c'est un accessoire qui existe.
Moi, j'appelle ça un abri tempo pour voiture électrique. Là. Tu mets ça dedans, tu le passes à travers, puis ça empêche la glace de se former.
Ou juste un sac en plastique peut faire pour remplir cette tâche-là aussi. Parlant de chargeur, l'autre truc, un des deux autres trucs.
Une housse, cherchais.
Une housse, oui, mais ça aussi, je cherchais le
blocage dans ma tête. C'est une housse, merci.
Donc, un autre truc qui touche aussi au câble de recharge, qui est parce que quand on achète une voiture électrique, ça vient avec un câble pour le charger, évidemment.
Oui.
Il y a des constructeurs qui ont pensé un petit peu plus et qui ont commencé à offrir des câbles dont l'autre embout, celui qu'on branche à la maison, peut être échangé entre une fiche pour une prise de 110 volts, donc une prise courante, et une prise de 220, donc celle qu'on appelle plus communément la prise de sécheuse. Évidemment, là, c'est un peu plus un détail, mais si vous magasinez une voiture électrique et que vous hésitez entre deux modèles, moi, je vais vous le dire, allez-y pour celui qui offre les deux prises. C'est ça la différence, là. Parce qu'effectivement, ça fait une différence de pouvoir se brancher sur une prise de sécheuse. Il y en a souvent des prises de 220 dans des garages quand on va en visite chez quelqu'un qui a un garage. Par exemple, si vous n'en avez pas, c'est possible de se brancher, d'accélérer la recharge, le temps de recharge, pas mal plus que quand on se branche dans une prise domestique plus conventionnelle. À l'inverse, si on est perdu dans le milieu de nulle part, il y a toujours des prises de courant conventionnelles. Donc, ce câble-là continue d'être utile pareil pour dépanner au minimum. Bref, c'est quand même un détail qu'il faut considérer au niveau de l'achat. Et enfin, troisième détail qui est aussi quand même plus important à la longue, c'est le fameux intérêt d'utiliser le plus souvent possible la fonction de récupération d'énergie maximale, qui est pas active par défaut quand on démarre le véhicule, mais qui s'active généralement soit en passant en mode écolo ou peut-être même en mode low là, sur la boîte, le sélecteur de transmission. Ou parfois, et c'était le cas dans le cas du MX-30, il y a des leviers, des manettes derrière le volant qui permettent d'ajuster. Et c'est rendu à ce point où il y a différents niveaux de récupération d'énergie. Là, souvent, c'est 1, 2, 3 ou peu importe. Il y a des constructeurs qui parlent de la fameuse conduite à une pédale pour expliquer le comportement du véhicule quand ce mode-là est engagé. C'est intéressant parce que ça agit un peu comme une compression moteur qui ralentit le véhicule à peu près jusqu'au point mort, autant que si on freinait. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on a remarqué, c'est que les véhicules électriques, on change les plaquettes de frein beaucoup moins souvent. Aussi, à l'autre bout du spectre, quand on réaccélère ensuite et que ce mode-là est activé, ça réduit la puissance maximale du moteur, ce qui prolonge un peu plus encore l'autonomie de la batterie.
Exact.
C'est évidemment particulièrement utile et remarquable quand le véhicule a seulement 110 km d'autonomie, là, ce qui était le cas du MX-30 dans les dernières semaines de cet hiver. Pas particulièrement chaud, mais peu importe l'auto que vous conduisez, c'est effectivement un bon moyen de maximiser sa consommation d'énergie. Évidemment, c'est l'électricité, puis ça coûte pas cher au Québec, donc on se dit « bah, je peux accélérer et puis conduire », mais il y a quand même une notion quand même de pas nécessairement de respect, mais d'efficacité énergétique qui est à considérer si on veut au moins maximiser sa recharge une fois à l'autre. Mais on va se le dire vivement à la fin de l'hiver, parce qu'on n'a pas encore résolu cette équation électrique et hiver à point. Nulle part dans l'industrie. On le sait, ça affecte l'autonomie de façon assez importante. Évidemment, quand on a une voiture qui fait 400-500 km d'autonomie, ça nous dérange moins.
Ouais, mais avec
mais il y a
le
des
peu,
progrès à aller chercher.
C'est ça. Non,
c'est des constructeurs et ça s'en vient très
bien. On le dit, on le redit. On peut pas amener un véhicule comme ça et penser en vendre avec une autonomie si faible. Chez nous, ça se fait pas.
Le gros point faible de ces véhicules.
Absolument.
Voilà.
OK. Ben, merci, Alain. Je pense que ça fait un bon tour du modèle.
Ouais.
Moi, je suis dans un véhicule qui est moins spectaculaire, qu'on a un peu oublié.
Mais il a toujours passé un peu sous le fameux radar. Là,
ouais, puis Dieu sait qu'il y a... Écoute, quand moi j'ai commencé dans le métier, je le sais, ça fait 30 ans, là, mais même un petit peu avant ça, c'était l'Honda Accord avec la Toyota Camry étaient les modèles les plus populaires. On en vendait 300-400 000 aux États-Unis par année.
Ça a toujours été confortable, sans bon sens pour une voiture
absolument.
De trailer en plus.
Et l'Accord demeure encore un excellent véhicule. On est à sa 11e génération là, du modèle
c'est
Accord.
Fou.
Et ce que j'avais en essai cette semaine, c'est le modèle hybride. Bon, bien équipé, il faut que je le dise, là, parce qu'on était à 47 000 et des poussières, là, le modèle qu'on avait, c'est cher. Ça commence dans les 30 quelques mille, mais là, on avait tout, le cuir, le toit, des meilleurs et j'en passe. C'est une boîte CVT, j'ai toujours dit à cette émission et dans tout ce que j'écris partout, que je ne suis pas un amateur de modèles CVT, mais il faut que je dise une chose, la boîte fait bien le travail. Et personne n'a envie de faire de la conduite dynamique, nerveuse ou sportive avec un accord hybride. C'est un modèle qui se conduit tranquillement. Mm-hmm. Et dans ces conditions-là, le CVT prend tout son sens. Alors, pas de problème. C'est un moteur 2 litres, très bien adapté, qui fait 212 chevaux. Puissance combinée, là, batterie hybride et tout et tout. C'est pas un hybride branchable, faut le dire. Mm-hmm. C'est un hybride tout court. Mais tu fais 5 litres au 100. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un gros véhicule.
Pour une berline intermédiaire, oui, c'est ça.
C'est une berline intermédiaire qui a un coffre de 473 litres, là, qui a beaucoup d'espace. En arrière, là, c'est spacieux. Puis, c'est une voiture. J'aime les voitures. Mm-hmm. J'aime être assis bas dans une auto. Des gens que ça lui tombe ses nerfs, moi, j'aime ça. Donc, on est à l'aise, on est confortable. La voiture est extrêmement silencieuse. Bon, je suis pas un fan des changements de vitesse à boutons, là. Ça me tombe.
Ouais, les boîtes électroniques, hein.
Pousser pour reculer, pousser là pour avancer. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans.
Oui, c'est vrai.
On a fait dans l'accord comme on a fait avec les autres produits Honda. On a gardé l'écran central, mais on a fini par mettre deux boutons. Parce que là, les touches affleurantes, là, on n'en pouvait plus personne. Là.
Ouais.
Là, c'est des boutons. C'est simple, c'est facile, puis c'est des gros boutons. Même si vous avez des gants l'hiver, là, bon, j'avais encore des gants cette semaine, ça se manipule. Et même le gant sur l'écran tactile fonctionne. On peut appuyer et ça fonctionne.
Des gants spéciaux, je pense.
Non, ben, c'est pas des gants pour faire du ski, là. C'était des petits gants, là, mais avec des petits gants, ça fonctionne très bien. Donc, il y a un affichage tête haute, des phares Adèle, il y a même un espace Internet. Là, tu sais, il y a vraiment pas mal d'affaires. Il y avait une recharge sans fil. Donc, il y avait beaucoup d'options dans le modèle que j'avais à l'essai. Qu'est-ce que j'aime? Bon, la conduite, je pense que c'est intéressant. Je tiens à spécifier, c'est le modèle Touring qu'on avait, là, pour ceux qui est le modèle... Chez Honda, le modèle Touring, c'est celui qui a tout dedans. Là.
Ouais.
On a un sous-sol et l'évier de la cuisine
un
aussi.
Un spa,
oui. Ah, il y a tout. En général, moi, c'est pas un véhicule excitant. C'est pas un véhicule là que vous allez dire, waouh, non. Sauf que c'est un véhicule raisonnable.
Mm-hmm.
C'est le genre d'affaires qu'on va aller s'acheter si on dit, moi, regarde, je trouve que c'est un bon compromis. Pour dire, bon, ben on parlait d'économiser le carburant, là, ça a été le thème de la journée à l'émission.
Mm-hmm.
À 5 litres au 100, là, je vous mets au défi de trouver un véhicule de ce format-là qui fait du 5 litres au 100, là, il n'y en a pas. Puis moi, j'ai fait ça, là, du 5 litres au 100, c'est à la fin de l'hiver.
T'as vu, la Camry hybride n'arrive pas tout à fait à ce niveau-là.
Camry hybride n'est pas loin,
mm-hmm.
C'est comparable.
Ouais.
J'aime le côté plus raffiné de la conduite du Honda. Si je devais comparer avec le Camry, hybride pour hybride, les deux modèles, cela dit, sont extrêmement fiables, vont vous donner un très bon rendement et vont conserver une excellente valeur de revente. Je dirais qu'on est pas mal nez à nez dans ces chapitres-là. Là où il y a une bonne différence, c'est à la conduite que je trouve un petit peu plus engageante, même si ce ne sont pas à la base des véhicules qu'on achète pour ça. Il y a un côté plaisant dans la conduite. Les deux ont beaucoup d'espace. Je donnerais une petite avance dans la finition du côté d'Honda.
Okay.
Mais en général, c'est deux véhicules qui vont faire du très, très bon travail au niveau de la conduite, au niveau de l'environnement. Si j'avais à donner une petite conclusion, je dirais que, bon, on se sent bien dans un accord. On se sent un peu à la maison. Et je pense que ce qui est gratifiant, c'est que tous les jours, on dit, vous avez fait un bon choix, ça a été intéressant. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Mm-hmm.
Alors voilà, ça met fin à notre émission de cette semaine. Merci Alain pour sa présence. Merci à Fred Perron derrière la console. Je vous dis, passez une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.